Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Fuji FM, les années communautaires, dans laquelle nous allons faire une petite rétrospective de ce qui a été réalisé par la communauté de communes Ardennes-Rives-de-Meuse en 2019. Monsieur Wallendorf est présent dans les studios, maire de Givet et vice-président à la communauté de communes Ardennes-Rives-de-Meuse. Monsieur Wallendorf, bonjour et meilleurs vœux.
Bonjour Eric, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Fuji. Et puis merci de vos vœux, et donc à mon tour, je vous présente tous mes vœux pour l'année 2020, ainsi qu'à tous les habitants du territoire communautaire qui nous écoutent de bonne heure ce matin, ou qui nous écouteront à l'occasion de la prochaine rediffusion. Merci Eric.
Tout à fait. Monsieur Gillot, vous êtes maire de Fromelennes et...
Deuxième vice-président.
Deuxième vice-président à la communauté de communes Ardennes-Rives-de-Meuse. Bonjour et meilleurs vœux pour cette année 2020.
Bonjour Eric et merci. Bonjour à toutes les auditeurs et toutes les auditrices. Et puis bien évidemment, une excellente année, une très bonne santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans tous les projets des uns et des autres tout au long de cette année 2020. Bon voilà, les vœux répétitifs traditionnels qu'on se souhaite tous les ans. On espère que cette année, ils seront plus exaucés que les années précédentes. Donc voilà, bonne année à tout le monde.
On va aborder différents thèmes, effectivement. Il y a des thèmes qui vont certainement, vous qui écoutez la radio, vous intéresser, puisqu'on parlera effectivement de la santé, on parlera de l'emploi, de l'économie, du patrimoine, de la culture également, mais aussi du tourisme et de l'environnement, entre autres, et de toutes les actions qui sont réalisées en faveur des habitants du territoire communautaire. On en parlera dans cette émission, donc aujourd'hui, juste après une première pause. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir choisi Fuji FM, les années communautaires, avec cette petite rétrospective effectivement des réalisations de la communauté de communes Ardennes-Rives-de-Meuse en 2019. Alors, je ne dis pas que tous les ans, la communauté de communes acquiert de nouvelles compétences ou sont transférées de nouvelles compétences à la communauté de communes Ardennes-Rives-de-Meuse. Est-ce que ça a été le cas en 2019, messieurs ?
Alors, il y a eu effectivement récemment un premier transfert de compétences qui a été particulièrement important, c'est en 2018, pardon. Ça a été le transfert de compétences dit GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Mmh. Voilà. On a parlé de transfert de compétences, en fait, ça n'est pas vraiment une compétence qui a été transférée, c'est une compétence que l'État a voulu donner aux établissements publics de coopération intercommunale. En fait, ces activités-là, personne ne s'en occupait vraiment. Les propriétaires des digues, par exemple, étaient compétents pour entretenir leurs digues. Bien souvent, on ne savait pas à qui les digues appartenaient. L'État, qui est responsable de tout, finalement, n'était responsable de rien. On l'a bien vu lors de la crue catastrophique de janvier 1995 à Givet, où VNF n'avait pas entretenu pendant plus de 20 ans une digue qui protégeait le port de Givet et qui s'est effondrée. Donc la compétence GEMAPI a au moins pour objet de définir les responsabilités clairement des EPCI et donc de la communauté de communes en matière de protection contre les inondations. Et chacun sait que dans notre territoire, les inondations, c'est particulièrement préoccupant. En tant que maire de Givet, je garderai toute ma vie le souvenir des crues catastrophiques de décembre 93 et de janvier 95. Et je m'étais promis à l'époque, hein, je n'étais qu'adjoint, de tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Voilà pour la compétence GEMAPI, qu'on a un petit peu de difficulté à mettre en œuvre parce que c'est compliqué. Et cette année, enfin l'année prochaine, non cette année, puisque ça y est, on est en 2020, mmh. Fin de 20, comme disent les fonctionnaires européens, la principale nouveauté, c'est que les communes ont accepté le transfert à la communauté de communes de la compétence de la gestion de l'assainissement, alors qu'il s'agit de l'assainissement collectif, station d'épuration ou de l'assainissement autonome, les fosses septiques que les gens ont chez eux, et également de la distribution d'eau potable. Donc c'est un challenge extrêmement important à réussir parce que c'est très compliqué et nous, les communes qui ont accepté de transférer cette compétence au 1er janvier 2020 à la communauté de communes, ont fait ce choix parce qu'elles ont estimé que, en globalisant la gestion de l'eau et de l'assainissement dans 19 communes, l'usager s'en trouverait bénéficiaire parce que, d'une part, ça va empêcher sans doute les tarifs de l'eau d'augmenter considérablement, Alors que quand on est tout seul, on se fait avoir. Ça a été le cas de la commune de Revin il y a quelques années. Et d'autre part, espérer sans doute réaliser une baisse des tarifs et de l'eau et de l'assainissement.
Alors ça, c'est différent pour des communes. Est-ce qu'il y a des communes dans le territoire communautaire de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse qui, justement, s'occupent de l'eau à la base des factures, effectivement, aux habitants?
Oui,
ou est-ce que ça passe par Veolia?
Non. Il y a plusieurs systèmes de gestion qui sont différents. Soit ce qu'on appelle la gestion en régie, où là, effectivement, la commune entretient son réseau elle-même, facture aux consommateurs les consommations d'eau et éventuellement les taxes d'assainissement. Il y a les communes qui ont des prestations de services avec des sociétés telles que notamment Veolia, uniquement pour la gestion commerciale, mais qui gèrent elles-mêmes l'entretien de leur réseau. Et puis, il y a des communes qui ont délégué complètement, je vais dire, la gestion du service d'eau potable et de l'assainissement à un concessionnaire. En l'occurrence, pour la commune de Fromelennes, par exemple, qui est la mienne, c'est Veolia qui s'occupe des deux compétences. C'est pas tout à fait le cas à Givet, puisqu'à Givet, c'est Veolia qui gère l'eau potable et Eau et Force qui s'occupe de l'assainissement. Donc voilà, c'est toute la difficulté d'arriver à marier tous ces systèmes de gestion au sein d'un système unique. Ça peut avoir effectivement des impacts sur les prix de l'eau qui seront facturés aux habitants, donc il faut quand même être extrêmement vigilant sur cette chose-là. Et puis il y a en dehors de ça, je veux dire, des politiques de prix différentes qui étaient appliquées par les communes, donc au choix de chacune des communes. L'idée, c'était d'arriver à trouver un système, je vais dire, qui permette d'arriver à terme sur un prix unique de l'eau sur tout le territoire de la communauté. Mais il y a tellement de différences de tarifs, ça va de 50 centimes du mètre cube facturé au prix de l'eau à plus de 5 euros, donc on a un facteur de 1 à 10, c'est colossal. Heureusement, la loi, puisque tout ce transfert de compétences est quand même à l'initiative de la loi NOTRe pour une nouvelle organisation territoriale qui a été votée en 2014, la loi a permis quand même un certain nombre de facilités, notamment d'arriver à organiser sa trajectoire de prix sur ce qu'on appelle un délai de lissage. En l'occurrence, ce délai se fera sur la prochaine mandature, donc jusqu'en 2026.
Est-ce qu'on peut parler d'un soulagement économique pour les différentes communes du territoire, justement, avec ce transfert de compétences?
Très, très clairement, il y a des communes qui auraient préféré rester toutes seules, il faut bien, bien que le disent, notamment les communes de Foix et d'Aubrive, qui étaient gérées par un syndicat de distribution d'eau potable dont elles étaient particulièrement satisfaites. Voilà. Et puis il y a d'autres communes, comme ma commune de Givet, qui auraient pu, si elles l'avaient voulu, faire reculer la date de mise en œuvre de cette compétence au 1er janvier 2026, si ma mémoire est bonne. Et nous, si on a voulu s'insérer dans cette stratégie à compter du 1er janvier 2020, c'est parce que, comme l'a dit Pascal, nous sommes aujourd'hui en délégation du service public pour l'eau et pour l'assainissement. L'eau est gérée par Veolia, l'assainissement est géré par Suez. En 2010, lorsque nous avons changé de système et changé de prestataire, nous avons procédé à une mise en concurrence. Et nous avons eu 3 candidats pour l'eau, 3 candidats pour l'assainissement. La concurrence a été réelle. Les 3 candidats se sont bien battus entre eux pour obtenir le marché. Et au final, grâce à cette concurrence, le prix de l'eau à Givet a baissé du fait des conditions favorables que nous avons obtenues. Et nous sommes partis en contrat d'affermage jusqu'à 2022 avec Suez et avec Veolia. Mais il se trouve que depuis, Suez, qui était le concurrent direct de Veolia sur le département des Ardennes, a vu ses autres contrats se diminuer, s'effacer même, puisqu'ils étaient gestionnaires du contrat de la grosse commune de Nouzonville, contrat qu'ils ont perdu parce que l'agglomération a pris la compétence eau et assainissement. Donc c'est un peu compliqué. Suez est également le gestionnaire du port de Givet, avec un contrat qui se termine, si je ne me trompe pas, dans 3 ans. Et aujourd'hui, on constate que Suez a décidé de se désengager de l'assainissement du port, je ne sais pas, mais de l'assainissement, on le constate. Ce qui fait que ma commune de Givet courait le risque. Et d'ailleurs, du coup, les communes voisines de Fromelaine et de Rancène et de Chaux, puisque la station d'épuration de Givet est commune à Fromelaine, à Rancène et à Chaux, Givet courait le risque de se retrouver lors de la prochaine mise en concurrence avec un seul candidat. C'est-à-dire Veolia. C'est ce qui est arrivé récemment à la commune de Revin, où seul Veolia a répondu. Et vous comprenez bien que dans une relation de client à prestataire, si le prestataire est le seul à faire une offre, ben il peut faire grimper les prix, c'est ce qu'il a fait à Revin. Donc moi j'avais peur de ça pour Givet en 2022, et c'est pour ça que j'ai pensé, avec le conseil municipal, nous avons pensé que c'était bien de transférer la compétence dès maintenant à la communauté de communes, pour que le marché, le prix, le chiffre d'affaires transféré était plus important, c'est quand même 27 000 habitants au lieu de 7 000, ce marché de 27 000 habitants attirerait davantage de nombreux candidats à la prestation et donc nous permettrait de faire jouer la concurrence. C'est pour ça que nous sommes engagés dans cette démarche.
Un bel engagement de votre part. On va marquer une nouvelle pause et on revient pour la suite des années communautaires dans un instant sur Fuji FM. Nous sommes de retour dans l'émission Les Années Communautaires aujourd'hui et merci de nous avoir choisis. On va en savoir un petit peu plus justement sur les différentes réalisations qui ont été faites en 2019 au sein de la communauté de communes Ardennes-Rives de Meuse. Et un premier sujet que nous avons abordé il y a quelques instants, en effet, la communauté de communes qui a récupéré la compétence eau et assainissement pour le bien des habitants, mais aussi pour le bien de certaines petites communes du territoire.
Eric, pour le bien de tout le monde, qu'ils soient dans les grandes ou dans les petites.
Oui, aussi. Exactement. Mais aussi pour les petites communes, puisque je pense que pour certaines communes, il y avait certaines difficultés, justement.
Oui, en fait, c'est vrai que je viens de donner l'exemple de la grosse commune de Givet. Donc, à Givet, les usagers reçoivent une facture d'eau qui vient de Veolia et qui reprend des données que Suez a confirmées à Veolia. Mais c'est une seule facture d'eau qui vient de Veolia. Mais dans des petites communes qui sont en régie, et je vais laisser Pascal expliquer parce qu'il connaît ça mieux que moi, ce n'est pas Veolia qui envoie la facture, c'est la régie, n'est-ce pas Pascal?
C'est ça, tout à fait. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les petites communes sont la plupart du temps en régie, donc c'est soit là où le secrétaire de mairie qui passe dans chaque maison pour aller relever le compteur et qui fait la facture ensuite. Mais ça va même beaucoup plus loin que ça. Il y a toute une part de bénévolat là-dedans. C'est ce qui explique souvent que le tarif de l'eau dans les petites communes est moins élevé que dans les grosses. C'est que quand vous avez un problème au château d'eau parce que les pompes sont à l'arrêt, ben c'est souvent le maire ou l'adjoint qui se déplace le samedi, le dimanche,
pendant ou la nuit. C'est le cas de Jean-Claude Jacquemart en Surmeuse qui le fait régulièrement.
Ou Jean-Marc Bertonnière à l'André-Champ, par exemple. Donc voilà, on ne peut que saluer évidemment ce travail-là. Mais derrière ça, il y a aussi d'autres choses qui expliquent les différences de tarifs entre certaines communes dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait que toutes les communes n'ont pas l'assainissement. Alors, dans la plupart des communes, l'assainissement a été fait, notamment les communes les plus importantes, mais dans les petites communes où il n'y a pas toujours forcément les ressources financières suffisantes, ça n'a pas toujours été fait. Et c'était en fait l'objectif de l'État, c'était d'arriver à ce que toutes les communes soient assainies, et pour pouvoir le faire, sachant qu'elles ne pouvaient pas l'imposer aux petites communes qui n'avaient pas suffisamment d'argent, eh bien il a souhaité le transfert de la compétence aux intercommunalités qui, normalement, ont quand même plus de ressources financières. Donc, il ne faut pas se tromper. Derrière, on sait parfaitement que les obligations qui seront imposées aux intercommunalités, donc à la communauté de communes Ardennes-Rives-de-Meuse, sera d'avoir un assainissement qui soit effectif partout, dans les petites communes ou dans les plus grosses, chose que ne pouvait pas faire l'État directement avec les communes. Et donc, c'est ce qui pourrait expliquer que pour certaines communes, notamment ces plus petites où il n'y a pas de réseau d'assainissement actuellement, le prix de l'eau, à terme, devra sans doute évoluer un petit peu, mais l'idée, c'est d'arriver justement à faire en sorte de maîtriser le mieux possible ces augmentations.
Est-ce que l'on peut dire effectivement qu'il y a des travaux qui vont être prévus dans certaines communes, justement, à ce sujet ou pas?
Alors, en fait, il y a deux types d'assainissement pour être conforme. Soit l'assainissement est collectif, avec un raccordement à une station d'épuration ou à un lagunage ou à un champ d'épandage collectif, soit l'assainissement est autonome. Et donc, sachant que la l'habitation ne peut pas être raccordée à un réseau d'assainissement collectif, le propriétaire est tenu d'avoir une installation autonome qui soit conforme aux règles. Donc il y a ces deux formes d'assainissement. Donc à l'heure actuelle, dans la communauté de communes, il y a un certain nombre de communes qui ont réalisé leur assainissement collectif. On peut citer le cas de Landry-Champs qui a commencé avec une aide importante du département des Ardennes, de l'agence de l'eau et de la communauté de communes. On a également le cas de Charnois, hein, qui a fait la même chose avec un assainissement collectif il y a quelque temps, dans les mêmes conditions financières. Aujourd'hui, des travaux sont en cours sur la commune d'Arny, et ceux qui prennent la route et qui passent par Arny le voient bien. Le fameux feu tricolore qui se trouve au coin de la place de Launay, il est là parce que l'entreprise est en train d'installer un assainissement collectif. Et nous avons des communes qui ont des projets, en particulier la commune de Vent-sur-Meuse, qui voudrait se doter d'un assainissement collectif. On a la commune de Fouache, qui travaille sur le sujet. La commune d'Aubrive, qui doit remettre son assainissement collectif aux normes. Puis il y en a d'autres qui, finalement, se limiteront à mettre en œuvre un assainissement individuel qui soit parfaitement convenable. Donc, dans le territoire des 19 communes de la communauté, et je n'ai pas cité tout le monde malheureusement, vous avez des différences, comme le disait Pascal, qui sont en matière d'assainissement notoires. Et le but de la communauté de communes pendant la période qui vient de s'ouvrir va être de faire en sorte qu'à l'issue du mandat de 6 ans qui va commencer à courir en 2020, toutes les installations d'assainissement des communes de la Pointe soient conformes, d'une façon ou de l'autre. Et dans ce cadre-là, la communauté de communes étudie le sujet depuis un moment, puisqu'elle s'est dotée d'un petit service qui a travaillé aux études préalables sur le transfert de compétences, qui est dirigé par Dominique Drouin, qui est un ingénieur très compétent et que tout le monde connaît bien dans la Pointe, puisqu'il a été chef d'agence de Veolia sur le secteur. Et l'avantage de Dominique, c'est que, ayant été chef d'agence de Veolia sur le secteur, il connaît toutes les ficelles de l'assainissement dans les communes du territoire de la Pointe.
Et les réseaux.
Oui, c'est plutôt les réseaux qui ficellent d'ailleurs. Donc, la communauté de communes vient de se doter d'une régie, donc autonome, à personnalité financière. Cette régie est dirigée, ces deux régies, il y en a une pour l'assainissement et une pour l'eau potable. Ces deux régies sont dirigées par Dominique Drouin. Ils sont installés à Viromolin, sur la zone industrielle nord, dans les anciens bureaux de la société FTV. Et ils vont commencer à travailler d'arrache-pied en ayant récupéré une partie des personnels communaux qui étaient mis au service des régies communales pour l'eau et pour l'assainissement, tous ceux qui l'ont voulu. Et donc, dans les communes où la facture d'eau était rédigée par la commune, comme à Viromolin, la facture d'eau maintenant va être rédigée par la régie communautaire. Mais sur le principe, cela devrait ne rien changer.
Très bien. Est-ce que l'on peut aborder, on a une minute très exactement, puisque l'on parle environnement avec l'eau et l'assainissement. Il y a eu aussi quelques modernisations dans les différentes déchetteries du territoire en 2019. Ou en tout cas la mise en place de
caméras de vidéosurveillance. On a mis en place une benne supplémentaire pour récupérer les meubles. Le problème, c'est que nos déchetteries étaient parfaitement modernes et parfaitement aux normes lorsqu'elles ont été construites il y a quelques années. Depuis, la réglementation a évolué. Et pour mettre de nouveaux équipements en place, il nous faudrait de la place qu'on n'a pas. Et on a un gros sujet, puisqu'on parle des déchetteries. On voudrait bien, enfin, pouvoir réaliser une déchetterie à Revin pour remplacer l'ignoble machin qui se trouve sur la route de fumée et qui n'a rien à voir avec une déchetterie moderne et propre comme les trois autres déchetteries communautaires.
Est-ce que ça fait partie des projets, justement, de la communauté de communes?
Bien sûr, avoir une nouvelle déchetterie à Revin, ça fait partie des projets de la communauté de communes. Oui. D'ailleurs, on y est obligé. Tôt ou tard, la patrouille étatique va nous rattraper en nous disant que la déchetterie, je dis déchetterie entre guillemets, de Revin, n'est qu'un immonde cloaque.
Et elle est déjà budgétée au sein du budget de la communauté de communes, qui plus est, à hauteur d'1 million d'euros. Donc il n'y a plus qu'à démarrer les travaux. Bon, maintenant, avant les échéances électorales que tout le monde connaît maintenant du mois de mars, c'est sûr que le sujet ne va plus avancer beaucoup, mais ça sera un des sujets prioritaires du début du prochain mandat, sans aucun doute.
Et en collaboration également avec Le Fournil d'Alexis, rue des Récollets à Givet, qui nous offre le petit déjeuner avec nos invités ce matin pour les années communautaires de ce début janvier 2020. Monsieur...
D'ailleurs, on remercie Alexis parce que c'est remarquable. Merci Alexis.
Et Bernard Dequens, président de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse, nous a rejoint en studio. Monsieur Dequens, bonjour et meilleurs vœux pour cette année.
Bonjour Bruno, merci pour tes vœux. Je présente également mes meilleurs vœux donc à l'ensemble de la radio et à l'ensemble des auditrices et auditeurs de Radio Fuji.
Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. On a abordé l'environnement, entre guillemets, et plus précisément l'assainissement et l'eau. On va passer à l'économie avec la communauté de communes qui travaille beaucoup chaque année sur la bonne santé des entreprises implantées sur le territoire. De nouvelles entreprises en installation 2019 ou en projet ?
Alors, oui, la compétence économie est quand même une compétence ultra importante, si ce n'est la compétence presque numéro un, je vais dire, de la communauté de communes. Donc, on y travaille d'arrache-pied. On a eu beaucoup de fers au feu, dont deux qui ont défrayé un petit peu l'actualité, on va dire ça comme ça. Le tout premier, c'était Cévital. Cet investisseur algérien qui devait installer une unité de production d'eau extrêmement pure. Et il faut savoir que Cévital, avant d'être fléché, je vais dire, sur le site PSA à Charleville, était venu visiter le site de Revin, de Porcher. Donc on avait de bons espoirs.
De Porcher ou d'Electrolux ?
Electrolux.
Les deux sites de Revin, les deux sites industriels, Electrolux et Porcher, sont deux sites que la communauté de communes propose systématiquement lorsqu'elle a des contacts qui lui viennent de l'agence départementale économique pour des implantations.
Voilà. Et donc on avait de très grands espoirs en tout cas sur cette implantation, et puis le président de la République est venu dans les Ardennes, enfin les Ardennes se limitant au sud et à Charleville, parce que bizarrement on n'a pas eu l'augure de sa visite dans la vallée, alors que c'est quand même là où il y a une forte population et là où il y a le plus d'industrie. Et d'un coup de baguette magique, le président de la République a annoncé donc l'installation de Cévital à Charleville-Mézières. Bon voilà, on sait aujourd'hui ce qu'il
en est. Un épisode assez douloureux d'ailleurs, parce que on se rend compte qu'en fait, nous, on fait les efforts les plus importants, les plus considérables pour la revitalisation, je dirais, de Revin, puisque la ville de Revin est quand même particulièrement sinistrée économiquement, et on a deux friches importantes, Porcher et Electrolux, comme me disait Claude, c'est systématiquement proposé, et là, on avait quand même, avec Cévital, l'occasion d'utiliser la friche Electrolux, qui est particulièrement en bon état, pour y installer Cévital. Bon, le phénomène identique s'est passé, je dirais, avec Hermès, où là, c'est encore un petit peu plus, cavalier, dans un certain sens, puisque nous n'avons même pas été mis au courant directement, je dirais, de la capacité qu'on pouvait avoir de voir Hermès s'installer chez nous, puisque la proposition d'Electrolux a été faite en interne, sans qu'on puisse, je dirais, nous défendre de dossiers communautaires, que ce soit d'ailleurs une installation à Revin ou ailleurs dans la communauté. Donc ça s'est passé un peu dans notre dos et on est toujours très amer vis-à-vis de ce dossier.
En clair, sur le dossier Hermès, donc en clair, vous, la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse avait quelque chose à proposer effectivement sur le territoire.
Évidemment,
on a appris dans la presse et les médias.
Et
on a appris dans la presse et les médias que c'était Thon Renvé qui avait été.
C'est même pas ça. Si vous voulez, tout le monde s'est fait berner dans cette histoire-là, puisque Hermès souhaitait s'installer dans un périmètre de 25 à 30 km autour de Bogny. Donc, quand on regarde un peu une carte, ça veut dire qu'une partie du territoire communautaire pouvait être concernée. Mm-hmm. Mais ces éléments d'information-là, ils ont été des éléments d'information totalement internes et qui ont été partagés en interne avec quelques personnes, mais surtout pas avec notre communauté.
D'accord.
Donc, ensuite, ça a été partagé. Donc, nous avons été éliminés d'office en nous disant, voilà, on n'a pas eu la capacité, la possibilité de défendre notre dossier comme on sait les défendre, puisqu'on aurait pu aussi, nous, amener un tas d'arguments pour l'installation, je dirais, d'Hermès à Revin. Quand Hermès s'est installé à Bogny, Bon, Bonny et Revin, je dirais, on ne peut pas dire que ce soit des communes qui soient vraiment très différentes. Hein. C'est des communes qui ont des difficultés économiques et c'est à Bonny dans de bonnes conditions. Donc on aurait très bien pu le faire également. Mais en fait, ça, le problème s'est passé de la même façon avec Valais-Plateau-d'Ardenne, puisque dans un premier temps, ça devait se passer sur Tournevée. Et puis il y a eu des coups de baguette magique là-dedans. Et puis pour faire en sorte qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr de l'installation de Hermès sur Valais-Plateau-d'Ardenne. Hein.
Ça sera à Tournes, c'est clair. Ça
oui,
sera pas
dans sur... ça sera pas sur Valais-Plateau.
Ça sera sur l'Aglo.
Ça sera sur l'Aglo. C'est ce que je veux dire par là. Ça sera sur l'Aglo. Donc l'Aglo a récupéré une fois de plus dans un système qui est quasiment identique et voisin de celui de Cévital, et bien Hermès. Voilà. Donc je pense que le président de VPA, Valais-Plateau d'Ardenne, Régis Depey, est comme nous particulièrement amer sur ce dossier-là, puisqu'il avait proposé 3 sites a priori. Hein. Donc bon, et des sites qui sont sur Valais-Plateau d'Ardenne, même si nous on n'est pas choisi, par la proximité, ça reste quand même intéressant pour notre communauté. Quoi. Donc là, c'est des dossiers qui ont été traités d'une manière quand même très cavalière, avec des interventions, comme disait Pascal, à très haut niveau, à mon avis, pour faire réfléchir les industriels.
Alors la compétence économique, c'est aussi s'occuper de ce qui existe. Hein.
Oui,
évidemment, on est très à l'écoute des entreprises qui existent actuellement, dont la vie n'est pas toujours facile. Bon, il y en a une pour qui la vie ne fonctionne pas trop mal, c'est le CNPE de Chaux, qui a connu son premier arrêt de tranche, visite décennale, qui est quand même un mouvement de techniciens, je vais dire, relativement important, puisque c'est 2000 personnes supplémentaires qui viennent pendant presque 6 mois. Un arrêt de tranche qui s'est quand même relativement bien passé, puisque les délais ont été tenus, et ce sont pendant 6 mois, 2000 personnes qui vont se nourrir dans nos commerces, qui vont s'héberger dans nos hébergements, dans nos hôtels, qui profitent de nos installations touristiques, donc ça fait du bien à tout le monde, à qui que ce soit, je vais dire, on va dire ça.
Bon, là, on doit encore s'améliorer, je dirais, dans le cadre de l'hébergement, pour essayer de faire en sorte que l'hébergement et les retombées directes sur le territoire soient plus importantes. Bon, géographiquement, c'est vrai, quand on regarde la centrale de Chaux, il y a une partie qui est sur la Belgique, donc on peut imaginer qu'effectivement, ils aient des retombées directes aussi. Mais je pense qu'en termes d'hébergement, on devrait... il va falloir qu'on se pose la question à un moment donné d'essayer de voir si on ne peut pas trouver et inventer quelque chose pour favoriser les hébergements des intervenants sur le site plus direct. Ça, c'est très important. Hein. Donc, effectivement.
Donc, on a de la chance en 2020. Ben, c'est la visite décennale de la première tranche. Donc, mise répétita. On espère que ça se passera tout aussi bien, évidemment, et que nous aurons autant de monde. Et puis, il y a Trefimeto, donc KME, dont on avait quand même...
Ex-KME.
C'est redevenu KME.
Oui, autant pour moi, c'est moi qui l'ai dit.
C'était redevenu KME.
C'est redevenu KME, voilà.
Donc, on avait quand même quelques inquiétudes. On se souvient qu'en 2016, on nous avait annoncé la fermeture de l'usine de KME à Fleuimont. À la suite de quoi, bon, il y avait eu toute une levée de boucliers, aussi bien des partenaires sociaux d'ailleurs que des élus locaux, et une forte mobilisation pour essayer de trouver des solutions de reprise. On avait eu donc monsieur
Dexon.
Le patron hongrois Kovács.
Finlandais.
Voilà, qui s'était positionné donc pour.
C'est pas un Finlandais. Il a une usine en Finlande.
C'est une usine de Finlande qui est
concernée. Mais lui, il est hongrois et domicilié à Vienne. Hein. Mmh. Et il avait des ennuis avec la justice à Liège, en Belgique. Donc c'est un personnage un petit peu étonnant.
Un petit peu sulfureux. Donc il avait accepté de reprendre presque la moitié, je vais dire, du capital de 3 usines françaises. Donc il y avait l'usine de Fleuimont, il y avait l'usine de Niederbruck en Alsace, il y avait aussi le siège qui se trouve à
la Courbevoie.
Voilà, c'est ça, effectivement. Et donc tout ça était prévu sur une échéance de 2 ans, à la suite de quoi, peut-être éventuellement 3 ans s'il y avait besoin d'avoir un an de plus, à la suite de quoi il était prévu normalement qu'il ait acquiert la totalité des parts de ces 3 sites. Et malheureusement, ça n'est pas allé au bout, et fort heureusement, KME, donc, qui est l'actionnaire historique, a accepté de reprendre les parts de M. Kovács. Et aujourd'hui, les nouvelles que nous en avons sont plutôt bonnes et rassurantes, puisque, au contraire, on sait que dernièrement, l'activité de Trefimeto à Fromelennes a été largement confortée.
Il y a même eu des embauches d'intérimaires.
Oui, oui, les embauches, effectivement, une douzaine, je crois, d'opérateurs. Donc voilà, c'est plutôt rassurant et c'est plutôt de bonnes nouvelles qui se préfigurent, en tout cas.
Ce qui a sauvé, en fait, ce qui a sauvé, c'est surtout la présence de la fonderie. La fonderie qui est un élément essentiel dans Trifimeto pour la garder. Et la problématique avec les investisseurs qui devaient reprendre, c'est qu'en fait ils se sont aperçus qu'ils allaient être concurrents, des concurrents qui allaient être âpres sur le dossier. Donc finalement, je pense que le bon sens est revenu, et le fait que ça retourne dans le giron me paraît une bonne chose, quoi. Parce que ça fait partie des anciennes industries encore présentes. Hein. Tout le reste, malheureusement, a été en difficulté ou est disparu. Hein.
Alors en fait, il n'y a pas que... On suit de près hein, les activités économiques des plus grosses entreprises du secteur. René Choin, notre vice-président en charge de l'action économique, s'en préoccupe très très régulièrement. Donc on a parlé de Trifimeto, où ça va mieux. Schuman, ben, ça va très bien, malgré la reprise par Yandel Basel, nouvel actionnaire, le rachat. On a Magotto à Aubrive qui marche bien, la Syrie Ardennaise à Vireux-Valran qui a des projets de développement. À Fumé, Nexence va bien. À Revin, alors la Fonte Ardennaise se maintient. À Revin, on a la fonderie Berroudio qui a des projets de développement qui malheureusement ne peut pas les mener à bien aujourd'hui suite à un problème de locaux, pour lequel nous allons être reçus par le préfet la semaine prochaine afin d'essayer de régler le sujet. Non, vraiment, en ce moment, et je touche du bois en disant ça, les principales entreprises de la pointe se portent bien dans le secteur industriel.
Nous allons faire une petite pause et nous allons revenir pour conclure sur le volet économique avec des choses un petit peu plus locales et commerçantes, on va dire, et qui vont intéresser nos habitants. Et puis on parlera de la santé pour conclure cette émission Les Années Communautaires. À tout de suite. Nous sommes de retour dans l'émission Les Années Communautaires. En ce début de mois de janvier, recevez-vous qui nous écoutez nos meilleurs vœux et que la santé vous accompagne chaque jour. Tout au long de cette année 2020, nous étions en train de parler économie et des différentes entreprises et usines qui étaient présentes sur le territoire communautaire avec...
On est arrivé sur Vireux, oui, enfin Vireux, j'y vais...
Oh, je suis allé jusqu'à Revin, puisque j'ai parlé de Berroudio.
Non, mais t'as commencé à Revin, et donc on a descendu, si on peut dire, le cours de la Meuse.
Et la bonne santé de l'entreprise Pousseur également, qui a eu des périodes un petit peu compliquées, c'est vrai,
Pousseur,
il y a quelques années.
Qui a investi lourdement dans des nouvelles zones de stockage, je dirais, de manière d'ailleurs tout à fait autonome. C'est toujours un plaisir de voir que les entreprises dégagent des marges pour investir, donc ça veut dire que ça se passe pas si mal que ça. Mais non, mais c'est vrai, franchement, c'est bien.
Et avec aussi de nouvelles entreprises qui vont éventuellement s'implanter sur le territoire.
On a notre dossier le plus important, enfin un des dossiers qui nous a vraiment beaucoup occupé, c'est à un moment donné la fonderie Rocroyenne qui cherchait des locaux pour grandir et puis pour pouvoir survivre quelque part. Ils étaient dans des locaux extrêmement petits sur Rocroy, et puis on a pu proposer la reprise du centre de tri de Fumet, donc dans d'excellentes conditions. Et donc aujourd'hui, la fonderie Rocroyenne est en train de s'installer, est en train de faire tous les travaux nécessaires, et je pense qu'on va avoir une belle entreprise là. Pour nous, c'est bien, parce que renouveler avec la fonderie, qui est quand même un élément historique de la vallée de la Meuse en termes industriels, c'est quand même un signe important qu'on donne à tous ceux qui voudraient venir chez nous. Alors on leur montre qu'effectivement, on est en capacité de répondre à leurs attentes.
Avec la création, du coup, de nouveaux emplois.
Et puis bon, les emplois qui étaient sur Rocroy, bon, ils font du Rocroy Fumet, bon, donc il n'y a pas de problème particulier pour les employés. En plus, il y avait beaucoup d'employés qui venaient de Fumet, qui venaient de la vallée, qui travaillaient sur Rocroy, donc ça reste quelque chose de très bien et de très très important. Et au fait, ça a permis à la fonderie de rester pas loin de l'endroit où elle était. Et ne s'est pas exporté à des kilomètres, comme on a pu connaître avec des dossiers qu'on a manqués quand on en a parlé tout à l'heure, comme Cévital et Hermès. Quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà, on a également la société MBT, qui est un constructeur de maisons en bois.
C'est ça.
Voilà, qui va venir s'installer sur le parc d'activités communautaires à Givet. Alors c'est une société qui existe déjà, qui nous vient de
nos Sambreville.
Sambreville, exactement. Bon, qui n'était pas tout à fait satisfaite de, de ses conditions d'installation, visiblement à Sambreville, mais qui avait surtout un marché en France. Et pour pouvoir travailler le marché français, c'est quand même mieux d'être installé en France. Mm-hmm. Donc voilà, ils sont venus nous visiter. Ils ont trouvé que finalement, c'était pas très loin de chez eux. Les conditions d'accueil leur paraissaient relativement intéressantes. Et donc, voilà, les formalités d'installation sont en cours, on va dire.
Et on va parler aussi, puisque l'on reste dans l'économie, de la redynamisation de différents centres-villes sur le territoire communautaire. Alors, il y a cette idée plutôt bien accueillie, hein, que ce soit par les artisans, commerçants, et par les clients et les habitants du territoire, les boutiques éphémères qui ont été créées et qui vont se créer aussi dans d'autres communes du territoire.
Oui, alors effectivement, ça s'est fait dans le cadre de l'OCMR, l'opération collective en milieu rural, menée par la communauté de communes avec le concours de la région, de l'État et puis des communes, évidemment. Donc l'OCMR s'appelait précédemment ORAC, hein, opération de restructuration de l'artisanat et du commerce, mais la finalité est toujours la même, à savoir d'une part aider les commerçants et artisans à investir dans leur outil de travail, voilà, dans le cadre de ce qu'on appelle les aides individuelles, et puis d'autre part, ce qui est appelé action collective, qui, comme leur nom l'indique, vise à permettre à différents commerçants et artisans de bénéficier d'un soutien. Bon, l'action collective la plus connue sur le territoire de la communauté de communes, c'est le chèque cadeau La Pointe, hein, qu'on essaye progressivement d'étendre jusqu'au territoire ruvinois. Et puis donc, il y avait deux autres actions collectives qui ont été listées dans le programme de l'OCMR. La première, c'est l'amélioration des commerces vacants par la pose de vitrophanie sur des vitrines souvent très tristes. Et la seconde, c'est l'opération boutique éphémère, qui permet, comme son nom l'indique, à des commerçants et artisans de s'installer dans des pas de porte vides, avec l'accord du propriétaire, pour y exercer une activité éphémère de quelques mois. On était parti au début sur 6 mois. On a eu du mal à faire démarrer cette action dans le cadre de l'OCMR, et puis on a réussi cet été à fédérer 3 candidats, grâce à monsieur Johan Donkers, hein, qui est un artisan cuir lunaire à chaud, personnage haut en couleur, remarquable et très 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 positif, qui nous a permis d'installer à Givet, place Carnot, 3 boutiques éphémères. La boutique de monsieur Donkers, cuir lunaire, dans l'ancienne parfumerie de madame Dupont. La boutique Les Découvertes Gourmandes d'Ingrid B. de madame Belgrade, dans l'ancien pas de porte de vêtements de madame Mazzarello, à l'angle de la place Carnot et de la rue d'Orléans. Et enfin, l'association naturelle de madame Dupont, dans l'ancien magasin, dans l'ancien pas de porte d'esthétique, rue d'Orléans. Et ça a eu, je pense, un bel impact. Les gens étaient très contents de revoir 3 pas de porte vacants animés place Carnot. Et donc, ça a suscité des vocations, puisque les communes de Fumay et de Revin sont en passe de faire la même chose, mais cette fois-ci pour l'an prochain. Et de même, des vitrophanies ont été posées avec l'accord des propriétaires sur un certain nombre de vitrines désaffectées à Givet. J'ai vu l'autre jour avec plaisir qu'à Fumay, il y en avait une autre. Et je crois, Bernard, qu'à Virevalran, il y a quelque chose qui a été fait.
Oui, il y a une vitrophanie qui a été posée sur l'ancienne presse à Virevalran. Non, mais c'est important, c'est une manière de dire et de montrer que les emplacements commerciaux ne sont pas morts, mmh, et sont en capacité d'accueillir de nouvelles activités. Donc ça, ça suscite la curiosité. Et rien que de mettre des vitrophanies pour montrer que ce commerce existe et que ces locaux existent, ça suscite de l'intérêt. Et il y a des gens qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour ce local-là, enfin qui se sont renseignés, je dirais. Donc c'est vraiment une démarche qui est extrêmement, extrêmement importante. C'est vrai que les centres-villes, on est obligé d'essayer d'avoir une politique de reconquête des centres-villes. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui est propre à la communauté, c'est propre à la France. Hein. Donc, oui. Les centres-villes doivent être repris, reconquis et par tout un tas de commerces. Et les vitrophanies et les boutiques éphémères, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, parce qu'en plus, boutique éphémère va certainement déboucher à un moment donné sur peut-être une installation définitive, puisque la personne se rend compte assez rapidement que finalement son concept il est économiquement viable. Mmh. Et donc c'est une forme d'essai, une forme de maturation de l'activité qui est fort, vraiment très intéressante.
Elle est en train d'évoluer un petit peu, alors sous une autre forme, avec le système PepiShop.
PepiShop, c'est la même chose.
Voilà, donc je ne sais pas si on a déjà des dossiers qui ont été finalisés sur le système PepiShop.
Oui, alors on peut peut-être expliquer, avant de parler du dossier finalisé, ce qu'est PepiShop. Ah ben merci Pascal. Donc en fait, PepiShop, c'est un concept local qui est, alors Pépi pour pépinière et Shop pour boutique, un shop qui est inspiré d'un concept national qui s'appelle Ma boutique à l'essai. Et donc ça permet, dans le prolongement des boutiques éphémères, de donner à un candidat à l'installation d'un commerce une période d'essai de 2 ans cette fois-ci, alors qu'une boutique éphémère c'est 6 mois, une période d'essai de 2 ans pour tester l'évolution de l'activité sur sa clientèle et l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, toujours dans le cadre d'un accord entre la commune, le propriétaire et la communauté de communes, le commerçant installé a un loyer progressif qui part de 25% les 6 premiers mois pour atteindre 100% au bout de 18 mois, avec une prise en charge du reste du loyer par la commune et la communauté de communes à part égale. Donc nous avons deux premiers dossiers qui vont se faire à Givet, puisque les boutiques éphémères de Madame Belgrade et de Madame Dupont vont être transformées en PepiShop, ce qui permet, là, aux alentours du 15 janvier, ce qui permettra à la rue d'Orléans de Givet de conserver trois pas de porte animés, avec celui de Madame Craignet, qui est également vraiment un pas de porte de proximité, particulièrement intéressant et particulièrement utile à la population locale.
C'est vrai que c'est deux dispositifs qui sont complémentaires, puisque c'est vrai que de la boutique éphémère, on peut passer facilement au dispositif PepiShop, qui permet d'aller encore un petit peu plus loin, je dirais, dans la manière d'appréhender son nouveau commerce, sa nouvelle activité, et puis de se lancer de manière définitive dans le système. On a eu sur boutique éphémère, au niveau fiscal, on a eu les choses sont rassurantes aujourd'hui, donc ça devrait bien se passer, parce qu'il y avait quand même une question au niveau de la fiscalité qui était en cours, et là, tout ça est levé, avait difficulté pour voir vraiment les réponses de la direction des finances publiques, mais enfin ça c'est habituel. Et donc aujourd'hui, il y a tout le monde est rassuré sur cette question.
Et d'ailleurs, je vais m'adresser justement à vous qui écoutez la radio. Si vous êtes créateur, repreneur de commerce ou d'entreprise, vous pouvez bénéficier effectivement de ce système. Il suffit de vous rapprocher du CIS à Viremolin pour en savoir plus, et on vous apportera effectivement tous les conseils et les aides dont vous aurez besoin pour vous installer dans une boutique éphémère.
Alors, le numéro de téléphone est 03 24 42 67 67.
Merci beaucoup. On va vite fait, pour conclure, mais vraiment vite fait, puisqu'on déborde un petit peu pour les années communautaires, et pour conclure effectivement cette petite rétrospective de l'année 2019 avec la communauté de communes Ardennes-Rives-de-Meuse, parler de la santé, avec beaucoup de choses qui ont été réalisées ces dernières années, et notamment en 2019 également.
La santé, oui, merci de nous en parler. C'est un des éléments majeurs, je dirais, de la politique communautaire, puisque le constat était simple. Hein, s'il faut effectivement faire quelque chose, parce que si on laisse les choses aller dans le sens où elles allaient, et bien on allait vers une désertification médicale totale. Donc on a décidé, la communauté de communes, de prendre les choses à bras-le-corps. Donc ça a commencé, je dirais, quelque part, par la signature des contrats locaux de santé, hein, le numéro 1 et le numéro 2.
Et le prochain va être signé prochainement.
Le prochain va être signé prochainement. Bon, ça n'empêche pas le numéro 1 de continuer à être vivant et dans ses actions, bien évidemment, où les actions du CLS, le contrat local de santé numéro 1, étaient concentrées sur la médecine de ville, sur la médecine de second recours, c'est-à-dire les spécialistes à l'hôpital, et puis sur la lisibilité de notre système, puisque c'est très important aussi de pouvoir avoir un système qui soit extrêmement lisible en termes d'urgence, en termes d'accueil par les habitants, parce que c'était une des angoisses, je dirais, de notre population. Donc là, le CLS 2 va être signé prochainement, qui va faire une grosse part à la prévention, hein, qu'on avait mis de côté volontairement pour être très actif sur les deux premiers items que j'ai signalés. Et puis, on a décidé, pour aller encore un petit peu plus loin, je dirais, dans les perspectives qu'offrait le CLS 2 pour nouvelles installations, eh bien de conventionner, par un appel d'offres, hein, avec une société pour recruter de nouveaux médecins sur la communauté. Donc on a donc aujourd'hui une possibilité de recrutement, donc d'installation de 10 médecins, avec une première tranche de 5 et une deuxième tranche de, une autre tranche de 5 après. Donc là, aujourd'hui, la phase de recrutement et les conventions sont signées par les médecins. On les a reçus ici à la communauté, donc avec d'autres de leurs collègues installés, hein, le docteur Matijazic et le docteur Mortellaro, que je remercie pour leur engagement, hein, parce que franchement, ils se sont extrêmement engagés dans cette affaire. Et on a accueilli ces personnes, hein, qui sont aujourd'hui sur le campus pour essayer de faire en sorte, mais déjà de s'imprégner un petit peu plus de la culture française et d'être en capacité, quand ils vont être, je dirais, mûrs, de venir s'installer. Mais ce sont des médecins d'un certain âge, ce ne sont pas des étudiants, ils parlent parfaitement français. Et donc même des médecins locaux qui pouvaient être un peu sceptiques sur cette opération sont sortis particulièrement enthousiasmés, je dirais, de la visite qu'ils nous ont faite. Donc là, la première vague, c'est trois médecins qui vont s'installer, hein, donc
médecin généraliste
plus un autre après et plus un autre après. En fait, il y en a cinq, hein, parce qu'il y en a un qui est en instance, mais comme son mari son épouse va être médecin, donc ça va faire au total cinq. Donc normalement aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un sur Revin. Donc d'ailleurs, il y a un bel article aujourd'hui de sur la recherche par Daniel Durbeck, qu'on presse d'ailleurs là sur le sujet, parce que avoir des médecins, c'est bien, mais il faut avoir des locaux pour les accueillir. Mmh. Et puis sur sur Aubrive et sur Givet, donc ça ce sont nos certitudes. Et ensuite, bon, après il faudra que les choses se déclinent, mais je dirais, si on arrive à mettre en 2-3 ans 10 médecins sur la communauté, nous n'arriverons qu'à être à une moyenne, même sous une moyenne. Donc il faudra pas perdre de temps et continuer à travailler, je dirais, sur les renouvellements. C'est extrêmement important, hein, extrêmement important. Donc là, on est dans une dynamique. Bon, je pense que la dynamique du contrat local de santé, bon, je vois par exemple le docteur Lanier qui s'installe à Givet, c'est un jeune médecin qu'on avait accueilli dans le cadre d'une découverte de la communauté, dans notre bateau, oui, hein, dans le Charlemagne. Oui. Ça, Charlemagne, il a servi à ça aussi.
Oui, il y avait eu des invitations.
Oui, et puis donc il a découvert le territoire, et puis il a dit, je m'installe. Donc voilà, maintenant il est installé, c'est formidable. D'accord. Donc cette dynamique-là, donc, elle est en train de se mettre en place avec la communauté de communes, sous forme de notre guichet unique qu'on a mis en place au niveau du CLS, et les choses bougent. Je sens que ça bouge. On peut pas passer sous silence non plus. Bon, tous les spécialistes qui s'installent sur Givet, les spécialistes qui s'installent sur Fumet, le scanner qui va s'installer à Fumet également, donc c'est quand même quelque chose de pas mal.
Effectivement, j'ai vu des traces d'un scanner qui allait s'installer à l'hôpital.
Ah,
de
c'est
Fumet.
Pas une trace, c'est un vrai scanner.
Vous parlez d'un vrai scanner que de traces, parce que...
Non, c'est un vrai scanner.
C'est vrai. Donc, scanner qui va s'installer en 2020.
Oui, oui, oui. D'accord. En 2020, il sera installé. Mais l'objectif, en fait, de tout ça, c'est d'avoir une offre de santé qui soit la plus importante et la plus variée possible, pour que les gens puissent choisir. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc, bon, après qu'on ait notre politique de développement de la médecine générale, mais il faut qu'aussi, à côté, on ait notre politique de développement des spécialistes, pour que tout ce monde-là puisse travailler.
À ce sujet,
les spécialistes, bon, il y a tout un panel de spécialistes qui viennent déjà sur Givet, dans le pôle médical.
Monsieur Wallendorf, oui.
Pour en parler. Et il y en a beaucoup qui viennent aussi sur Fumet. Donc il y a vraiment une belle offre qui se met en place. Et il faut que nos médecins généralistes et nos habitants jouent le jeu vis-à-vis de ça. Mm-hmm. Et n'hésite pas à les consulter.
Des spécialistes, effectivement, qui consultent au centre...
Au médical du GIE, oui, ce sont des spécialistes.
Et au centre de radiologie aussi ?
Non. Le cabinet de radiologie de Givet, et qui a rouvert l'année dernière, est indépendant du pôle médical du Givet.
Oui.
Voilà, donc il y a au cabinet de radiologie deux médecins radiologues. Il devrait bientôt y en avoir un troisième si ces messieurs dames du Conseil de l'Ordre des médecins des Ardennes veuillent bien instruire normalement les dossiers de demande d'agrément. Et les spécialistes, et ça n'a rien à voir avec l'UCL Namur, hein, ce sont des radiologues privés, libéraux, privés. Et donc, pour le pôle médical, les spécialistes sont des spécialistes qui viennent de l'UCL Namur, donc soit de Dinan, soit de Montgodine. Ce sont deux choses différentes.
Ok.
Il aura d'ailleurs été proposé à ces radiologues-là, enfin, il y a tout un tas de négociations, hein, pour qu'ils puissent utiliser le scanner de Fumet et être aussi des radiologues qui puissent
lire les scanners.
Important.
On revient quand même de loin, on se souvient, il y a une trentaine d'années où il y avait l'hôpital à Revin, un fumet et la clinique de Givet.
Mm-hmm. C'était une clinique à Revin aussi, c'était pas un hôpital.
C'était une clinique à Revin aussi, tout à fait, absolument.
Ah ben c'est sûr.
Et la clinique de Revin était fermée, celle de Givet aussi, malheureusement. L'hôpital de fumet a failli fermer. Et aujourd'hui, revoir effectivement tous ces établissements se repeupler en médecins généralistes et en spécialistes, on ne peut qu'applaudir ça. Et bon, c'est quand même le fruit d'un travail conséquent de la part de la communauté qui a vraiment pris ce dossier-là à bras le corps.
On a un grand regret avec Claude. C'est effectivement qu'on n'ait pas pu, et ça, c'est pas de notre faute. Hein. Franchement, on a fait le maximum. Installer les soins de suite qu'on avait éventuellement envisagé pendant un temps sur Givet, parce que c'était aussi ça c'était vraiment un aspect de la politique de santé qui était important. Les soins de suite, c'est permettre aux gens qui sont opérés dans différents endroits de venir faire la suite de leur hospitalisation sur Givet. Bon, ça n'a pas pu se faire pour des raisons de permis de construire, de choses vraiment c'était compliqué. Bon, je dirais que ce dossier-là n'est peut-être pas tout à fait perdu. Bon, aujourd'hui, ils sont sur Revin, mais bon, pourquoi y aurait-il pas deux centres? Moi, je n'y vois pas d'inconvénient, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il faudra peut-être réfléchir et investir.
Il y aurait encore beaucoup à dire, je pense.
Énormément.
L'émission est peut-être un peu courte.
On n'a pas parlé de Charlemont, on n'a pas parlé de Sulatex.
De Charlemagne.
On n'a pas parlé de Charlemagne.
On n'a pas parlé du quai des Trois Fontaines.
On n'a pas parlé du quai des Trois Fontaines.
De la fibre optique.
Il y a vraiment encore plein de choses.
On reviendra.
On reviendra.
Oui.
On reviendra le premier mercredi de février, comme d'habitude. Donc on va prendre la date tout de suite, si vous voulez bien.
Pas de souci. Prenons les agendas. Et effectivement, premier mercredi du mois de février, nous serons présents ici dans les studios du 32 avenue Jules Lartigue pour vous présenter les années communautaires et effectivement des choses qui ont été réalisées et des projets à venir qui sont d'ores et déjà nombreux et sur lesquels la communauté de communes Ardennes-Rives-de-Meuse travaillera en 2020. Merci en tout cas d'avoir été présent ce matin. Recevez encore au nom de toute l'équipe de la radio nos vœux. Que vos vœux se réalisent en 2020 et que la santé vous accompagne. C'est valable pour vous également qui écoutez la radio. Rediffusion de cette émission, les années communautaires, dès demain après-midi entre 14h et 15h, mais aussi samedi matin entre 7h et 8h.
Eh bien, merci Eric de vos vœux renouvelés. Alors, je vais plaisanter un tout petit peu. Nous concernant tous les trois, beaucoup de gens connaissent nos vœux pour cette année 2020. Voilà, donc on espère qu'ils vont se réaliser, bien entendu. Pour le reste, encore une fois, nous présentons tous nos voeux à tous les auditeurs de Radio Fuji et à notre belle radio.
Merci à tous. Belle journée.
Merci.
Bonne journée à tout le monde et encore bonne année.
Bonne année à tous et meilleurs voeux à notre belle Radio Fuji.
Merci, au revoir.